Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Con una bella donna ci si mette sempre d'accordo prima o poi, e tutti vissero felici e contenti quanto si può essere su questa terra. Cioè, poco.
Sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée, on va dire, aux différents aspects du cinéma italien. On va parler des dernières sorties Artus Film, à savoir les 100 cavaliers de Vittorio Cotafavi, le chevalier du château maudit de Mario Costa, Tir Django Tir de Bruno Corbucci, la dernière balle à pile ou face de Piero Pierotti, les 7 bérets rouges et écorchés vifs de Mario Siciliano. Alors tout ça, c'est chez Artus Film. Et puis j'y ajouterai chez Rimini la grande pagaille de Luigi Comencini. L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour aborder le meilleur cinéma du monde de tous les temps, je suis accompagné aujourd'hui de mes fidèles acolytes. Je vais bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, un autre fan du cinéma italien, mais ce n'est pas un loup-garou italien, non, c'est un loup-garou amiénois, le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien, et bien sûr, salut à toutes.
Débutons cette émission par, des films de cap et d'épée. Voilà, moi j'avais envie de débuter cette émission par des films de cap et d'épée. J'avais envie de retrouver les plaisirs de mon enfance. Et je vais débuter par un film donc, qui vient de sortir chez Artus Film, qui s'appelle Le Chevalier du Château Maudit. Et qui est un film donc franco-italien qui a été réalisé par Mario Costa et qui est sorti en 1959. Un film qui se déroule évidemment au Moyen-Âge et hugonais, un capitaine et seigneur cruel qui affame ses sujets, et qui est, qui habite un château digne de la demeure de Fantômas vue par André Hunebelle, avec des cachettes partout, des trappes, des pièges, des passages secrets, voilà. Donc ce hugonais qui est très méchant fait emprisonner le duc Olivero, qui est un seigneur apprécié de ses sujets. Pourquoi ? Parce qu'il veut s'emparer du duché de Valgrado. Et pour consolider son pouvoir, il veut épouser Isabelle, fille du duc. Alors, Isabelle est interprétée par Jeanne Val. Et Hugonnet, lui, il est interprété par Massimo Cerato. Massimo Cerato, c'est un qui campe un méchant suave et assez savoureux. Et c'est un acteur assez énorme parce qu'il a presque 200 films à son actif. Et on l'a vu, par exemple, dans quelques grosses productions, dans Le Cid, d'Anthony Mann, et Les 55 jours de Pékin, de Nicolas Ray, par exemple. Et donc, Ce seigneur un peu pas sympathique du tout, quoi, voilà, un peu méchant, hein, parce que c'est un film, bon, c'est presque enfantin, il y a le méchant, il y a le gentil, les méchants, enfin bon, voilà. Lui, il décide d'épouser donc, la fille du duc qui est emprisonnée, hein. Il décide de la manipuler et de l'épouser, alors que normalement, au départ, il était prévu à la marquise Fiamma, et la marquise Fiamma, alors ça c'est pour l'anecdote, elle est interprétée par Claude Jansac, qui est toute jeune, la femme de Louis de Funès dans la série des gendarmes, voilà, des gendarmes de Saint-Tropez, voilà. Bon, sinon, que dire de ce film ? Vous doutez bien que Hugonnet, il est méchant, il fait ça, mais il a un ennemi face à lui. Il a un ennemi, et cet ennemi, j'ai oublié de vous dire ça quand même, c'est le plus important, c'est le Chevalier Noir, qui se dresse contre lui. Un héros intéressant d'ailleurs, parce qu'il est parfois cruel avec les traîtres. C'est un héros qui peut tuer, hein. C'est pas un héros qui épargne, hein. Voilà. Et quand on le trahit, il peut être très méchant, ce héros, voilà. Mais c'est un héros comme on les aime, un pro-chevalier, défenseur de la veuve et l'orphelin, un chevalier noir en fait, qui est une sorte d'émule de Robin des Bois. D'ailleurs, il y a même un curé qui évoque Frère Tuck, voilà, un personnage de curé qui évoque Frère Tuck. Et c'est un film, voilà, avec beaucoup d'action. Toutes les 15 minutes, il y a une scène d'action. Il y a de belles séquences de bataille. C'est un film efficace, assez fastueux, hein. On n'est pas dans le tout petit budget quand même. Et pour moi, c'est digne des bons vieux films avec Jean Marais, des bons vieux films d'une belle, Le Bossu, Le Capitan, enfin tous ces films qui ont bercé notre enfance, voilà, tous ces films-là. Et pour ceux qui ont gardé leur âme d'enfant et puis qui aiment les films de cap et d'épée, je leur conseille ce film. Autre film historique qui sort en même temps dans la même collection, la collection de chevaliers, là, consacrée à au cinéma de cap et d'épée, il y a un film d'aventure. Alors, hispano-germano-italien, pourquoi ? Parce que ça se faisait dans un système de coproduction, parce qu'à l'époque, l'Espagne de Franco voulait faire c'était une politique d'ouverture, soi-disant. C'est un film de 64, ça s'appelle Les 100 Cavaliers, et c'est un film signé d'une légende, hein, d'un cinéaste qui s'appelle Vittorio Cotafavi. Alors, Vittorio Cotafavi, c'est avant tout une légende du péplum. Il a par exemple signé une superbe version de Messaline, Les Légions de Cléopâtre. Il y a un film aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Hercule à la conquête de l'Atlantide. D'ailleurs, c'est un cinéaste qui était encensé par la critique, hein, dont Positif, qui a beaucoup loué son travail, et des cinéastes comme Luc Moulet, Bertrand Tavernier, l'adoraient. Vraiment, enfin, elle l'adore. Et le public suivait plutôt bien ces films. Et ce film-là, j'étais très curieux de le voir, parce qu'en fait, ce film-là, c'est son film du désaveu avec le public. C'est-à-dire que c'est un film qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, Cotafavi a arrêté de faire le cinéma. Il a quitté le cinéma, en fait. Il a arrêté d'en faire devant l'échec du film. Donc c'est quand même assez étonnant, quand même, hein, voilà. Alors, qu'en raconte ce film ? Ce film se passe en l'an 1000 après Jésus-Christ. Alors que les morts se sont installés en Espagne, alors les morts M-A-U-R-E-S, je précise, hein, un tchèque, le tchèque Abdel Galbon, et ses 100 cavaliers demandent asile dans un petit village isolé et tranquille de Castille, en échange de cadeaux offerts aux maires. Mais rapidement, ils deviennent des occupants tyranniques, et après avoir fait croire au vol d'un chargement de blé détourné par eux-mêmes, et après avoir tué le gouverneur de la région, ils ne cessent de terroriser les habitants, le village est pillé, et la répression s'installe, la résistance s'organise autour du bras avec charismatique Fernando, un jeune marchand alors qui est campé par Marc Damon. Alors Marc Damon, pour les fantasticophiles, ça va peut-être vous dire quelque chose, c'est un acteur, un très bon acteur, hein, qui est assez peu connu, qui a interprété un méchant cruel et suave, un peu sadien, dans le fameux Requiescant de Carlo Lizzani avec Lou Castel, très bon western italien, et qui a été qui était le héros de la chute de la Maison Usher de Roger Corman. Et Marc Damon, donc, il est ce héros, ce jeune marchand. Et c'est un enfant d'un ancien combattant des morts, le tueur de morts Don Gonzalo. Alors le père et le fils s'allient pour protéger les villageois et se débarrasser des morts, et ils sont fortement aidés par voilà, des acteurs magnifiques. Hein. Bon, il y a une actrice qui est superbe, c'est Antonella Lualdi. Alors Antonella Lualdi, elle a souvent été Antonella Lualdi. On a oublié en fait qu'elle a eu une carrière avant d'être la femme de Pierre Mondi dans l'ignoble série Les Cordiers jugés flics sur TF1 qu'elle a tournée pendant des années. Mais en fait, Antonella Lualdi, elle a joué par exemple dans Les Titans de Tessari, elle a joué dans À double tour de Chabrol, elle a joué dans plus d'une centaine de films. Et là, elle a un rôle très important puisque elle interprète la fille du maire. Et elle va se révolter, puisque le maire va être exécuté, elle va se révolter et mener la révolte quand même. C'est un rôle très important de femme forte. On en voyait quand même assez peu, hein, si on compare au film dont je vous ai parlé avant, le précédent, là, Le Chevalier du Château Maudit. Les femmes sont plutôt des faibles femmes qui attendent leur pro-chevalier pour les délivrer. Là, elle, c'est une femme forte qui n'hésite pas à mouiller la chemise et qui parfois, par exemple, quand elle se fait capturer par les morts, n'hésite pas à faire des choses pour les choquer. Par exemple, elle commence à se déshabiller. Par exemple, à un moment, c'est une scène assez étonnante. Alors, je vous rassure, elle reste quand même très habillée. Hein. On n'est pas dans un film. On n'est pas dans un film érotique. Hein. Voilà.
Ça, tu nous rassures? Tu nous rassures pas du tout.
Et non, c'est vrai qu'elle est très belle en plus. Et après, il y a Gastone Moschin, qui est un acteur que j'adore, super acteur, qui tient le rôle principal, par exemple, de Milan Calibre 9, très grand film de Fernando Di Leo, et qui là fait le frère Carmelo. Alors, un curé pas comme les autres, ce frère Carmelo, parce que il aime bien faire le coup de poing, en fait, et il maîtrise assez bien l'art de la guerre. On découvre qu'avant d'être curé, il a été autre chose. Voilà, et Gastone Moschin est excellent. Et allez, pour continuer sur la distribution, il y a Wolfgang Press, cet acteur allemand très charismatique, qui fait le tchèque Abdel Galbon. Et alors, dans les seconds rôles, il y a un second rôle remarquable, c'est le fameux Aldo Sambrel, super acteur, qu'on peut voir également en Bédouin, par exemple dans Le Lion et le Vent de John Milius. Alors, ce film, et pour moi, quand j'ai découvert ce film, je suis resté absolument scotché. Pour moi, c'est un film époustouflant, c'est un film extraordinaire. J'ai presque envie de le revoir déjà. Là, je l'ai vu hier pour préparer l'émission. C'est un film très, très ambitieux. Dès le début, il y a le regard caméra d'un peintre qui s'adresse au spectateur. Il est en train de faire une fresque. Cette fresque, en fait, elle a toute une importance puisque c'est un film qui est en fait un film anti-guerre. C'est ça qui est fantastique dans ce film. C'est un film contre la guerre en vérité, contre la violence. Et c'est une déclaration d'amour au cinéma et à l'art. L'art contre la barbarie à travers cette fresque, ce peintre. Voilà. Ce peintre qu'on voit au début du film, qu'on va retrouver à la fin. Je tiens à souligner aussi que la copie du Blu-ray est magnifique et qu'elle fait 30 minutes de plus que la version qui était jusqu'ici disponible. Il n'y avait pas toutes ces scènes-là avec le peintre et tout, donc on perdait beaucoup de choses. Je voudrais dire que le film regorge de scènes à la fois drôles et pleines d'amertume. Par exemple, ce Don Gonzalo, le tueur de mort, il règne sur un petit royaume, comme ça, c'est le père de Marc Damon, et il a un château qui est gardé. Et en fait, il est gardé par des héros de guerre. Et tous ces héros de guerre sont tous des estropiés, des unijambistes, et puis des vrais. À l'époque, il n'y a pas d'effets spéciaux. Donc c'est à la fois drôle et à la fois effrayant, et à la fois très attristant. Il y a aussi un vrai fond dramatique. Il y a de l'humour, il y a vraiment de l'humour, mais il y a aussi un vrai fond dramatique. Il y a un certain... C'est vraiment un film qui est assez incroyable. Il y a une scène de duel à la lance qui est superbe entre le fils du Tchèque et Marc Damon. Il y a des plans, de composition des plans qui est incroyable. Il y a une scène où il y a 24 pendus qui sont pendus le long d'un pont et qui sont mis en parallèle avec les arbres d'une forêt. C'est d'une beauté plastique absolument sidérante. Il y a aussi une scène de bataille Juste avant la bataille finale, il y a une scène qui a des airs d'apocalypse où le feu est mis en fait dans les champs, dans les cultures pour attirer les morts dans un piège. Et là, ils se battent tous au milieu des flammes dans un magnifique cinémascope avec des dizaines et des dizaines de cavaliers, des centaines de figurants qui s'affrontent dans des plans larges incroyablement bien chorégraphiés. C'est d'une maîtrise incroyable, c'est épique. C'est brillant, la photo est superbe. Il y a une attaque du village, par exemple, des morts, qui est une attaque de nuit, comme ça, où on joue des reflets sur l'eau. C'est incroyable, c'est super beau. Il y a une scène d'exécution publique aussi qui alterne comme ça des travelling avant et des travelling latéraux en entrecoupant de plans fixes et de contre-plongées. Pour souligner l'horreur de la scène, c'est superbe, c'est une mise en scène incroyable. On comprend mieux pourquoi Vittorio Cotafavi en fait, était un réalisateur vénéré par plein de critiques en France, un réalisateur oublié en plus aujourd'hui, hein, complètement. Pour moi, ce film, c'est peut-être même meilleur encore que le Cid d'Anthony Mann, c'est épique, c'est bluffant, c'est incroyablement ambitieux en plus, enfin c'est absolument extraordinaire. Il y a une bataille aussi dans le film où, pour souligner l'inanité de la guerre et des combats, le cadre se resserre et on passe de la couleur au noir et blanc. Puis le technicolor est flamboyant et on passe de la couleur au noir et blanc. C'est pas un hasard, ça dure longtemps. Pendant plusieurs minutes, le film se retrouve en noir et blanc, mais dans un noir et blanc un peu particulier. Donc c'est vraiment un film incroyable et je n'aurai pas assez de toute cette émission pour vous dire tout le bien que je pense de ce film, quoi, qui est un film vraiment, vraiment extraordinaire et que je vous conseille. Alors c'est obligatoire, ça doit figurer dans votre vidéothèque. Si vous aimez le cinéma, il faut absolument avoir ce film dans votre vidéothèque, Les 100 Cavaliers de Vittorio Cotafavi. Donc c'est disponible chez Artus Film et c'est magnifique. Écoutez Culture Prohibée. Mais toi, Thomas, tu n'en as que faire des gens qui manient l'épée. Toi, tu préfères les gens qui manient le Colt. Le Colt dans l'Ouest italien, tourné à Almeria en Espagne. N'est-ce pas, Thomas ?
Oui, oui, j'aime beaucoup les westerns, effectivement. C'est un genre que j'affectionne depuis longtemps, notamment à cause de notre ami Eddie Mitchell hein, et sa fameuse dernière séance. Mais là, c'était plus le cinéma états-unien. Hein. Là, on reste dans le cinéma italien. Hein.
Parce que Eddie Mitchell n'aime pas du tout les westerns italiens.
Hein. Bah, tant pis pour lui.
Même Sergio Leone, il est pas. C'était pas un grand fan. Hein.
Bah, tant pis pour lui, parce qu'il y a quand même quelques perles. Hein. Donc, il y a deux films là que Artus nous a sortis. Il y en a un que je trouve pas mal, sans plus. Hein. C'est Tir de Jean Gautier de Bruno Corbucci. Alors, moi, Bruno Corbucci, je connaissais le frère, hein, parce que le spécialiste du cinéma italien, c'est plus GG que moi. Hein. Je connais surtout le frère Sergio Corbucci, notamment avec Le Grand Silence. Et je n'avais jamais vu de film de Bruno Corbucci. Donc là, on suit un personnage qui s'appelle Stark. Alors, je ne sais pas pourquoi le film s'appelle Django, alors que le personnage principal s'appelle Stark dans le film.
Pourquoi il s'appelle-t-il Django? Bah, tout simplement pour surfer sur le succès de Django, du frangin. Mais c'est en France hein, qu'il s'appelle Django, hein, parce qu'en Italie, il ne s'appelle pas Django.
Le titre italien du film est différent. Donc Stark s'enfuit de prison. On ne sait pas pourquoi il était emprisonné, mais bon, visiblement il était pris dans une entourloupe et il retrouve un homme de qui il se venge, en l'exécutant ni plus ni moins. Et il se fait quand même rattraper par une bande de Mexicains qui étaient ses acolytes. Et sur le point, quand il est sur le point d'être pendu, leur chef propose un deal à ce fameux Stark, c'est d'aller chercher son fils qui était enrôlé dans une petite armée, une petite milice d'un major qui pille des gens. Enfin. Et donc il doit aller ramener son fils parce qu'ils sont vraiment trop malheureux sur leur fils, surtout son épouse. Et donc Stark, qui connaît bien ce fameux major, va tout faire pour ramener ce fameux fils effronté qui ne fait pas honneur à son père et à sa mère. Donc c'est un western que je trouve quand même assez classique dans sa façon, dans sa mise en scène, dans son déroulement, dans sa narration, mais qui est quand même assez pro. Hein, c'est quand même... c'est du scope, c'est bien filmé, c'est bien éclairé. Mais il y a quand même un truc qui est étonnant dans le film. Et on se demande si un certain Steven ne l'aurait pas vu. C'est que le personnage principal, il a un fouet. Il manie le fouet comme Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Et je me demande si quelque part, ce n'est pas aussi une influence de Steven Spielberg. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Fellini. Hein. Dans 8 et demi, il y a Mastroianni qui est... à moitié à poil avec un chapeau, un feutre sur la tête, et puis il manie le fouet dans un hammam ou un sauna, je sais plus bien. Et je me demande si tout ça, c'est pas des films qui ont influencé Steven Spielberg pour Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Donc, Tir Django Tir, c'est un western très agréable, plutôt le haut du panier hein, quand même, hein, GG.
Ouais, c'est un bon western efficace. C'est vrai que c'est un film réalisé par quand même le co-scénariste de Django d'ailleurs, hein, puisque Bruno Corbucci il a écrit Django avec son frère Sergio, hein, c'est Sergio qui l'a réalisé. Alors Bruno Corbucci n'a pas le talent de metteur en scène de son frère, mais c'est un metteur en scène très carré, très propre, qui compose de beaux plans, qui sait ce que c'est qu'une belle photographie, voilà, enfin qui a un certain sens du cadre. Et là, il nous propose donc ce film, effectivement, qui date de 68. Et donc, le fait qu'il soit sorti 2 ans après le premier Django fait qu'il est effectivement tout de suite, on va le retitrer Django, comme ça, on s'est dit, ça va faire venir des spectateurs dans les salles. Alors, le film sort la même année quand même, bon, c'est pour dire un peu le fossé qui sépare les deux frangins. Alors, c'est son grand frère, hein, Sergio, hein, sort la même année que Le Grand Silence. Le Sergio Corbucci, qui est un chef-d'œuvre absolu, voilà, et pas un chef-d'œuvre absolu du western italien, c'est un chef-d'œuvre absolu tout court. Voilà, c'est un grand film. Là, en fait, ce qui frappe dans ce film-là, c'est déjà, il y a une distribution qui est très chouette. Alors, il y a Brian Kelly qui fait le héros que je trouve, moi, un peu fade. Je sais que certains l'apprécient beaucoup. Brian Kelly qui fait celui qui manie bien le fouet, qui fait donc ce Django qui, en fait, ne s'appelle pas Django. Ce fouet qu'il appelle sa donneuse de caresses. D'ailleurs, c'est assez drôle hein, comme expression. Alors, Brian Kelly, il est surtout connu pour avoir été le héros de Flipper le Dauphin. Et comme on l'apprend dans les bonus, Kurt Ryle nous dit qu'en fait, il a eu un accident grave et que de cet accident grave, il a gagné beaucoup de sous. Mais par contre, il n'a plus jamais pu jouer parce qu'il était, je crois qu'il a perdu une jambe, un bras. Enfin bon, c'était assez catastrophique. Et il est devenu avec ses sous-producteurs. Il a par exemple produit Blade Runner de Ridley Scott. Donc ça, c'est assez rigolo comme anecdote. Mais moi, il y a surtout, alors déjà, je trouve que en face de lui, Fabrizio Moroni, en fiston rebelle, s'en sort plutôt bien. Il a un certain charisme, c'est qu'on a pu voir dans Quatre mouches de velours gris, Moroni. Et puis surtout, il y a deux acteurs extraordinaires. Voilà. Il y a Folco Lulli, qui fait ce père-là, ce Gutiérrez, je crois qu'il s'appelle, hein, qui fait ce chef mexicain qui envoie donc le héros récupérer son fils. Hein. Le héros Chad Stark, qui n'est rien d'autre d'ailleurs qu'un tueur à gages, hein, ce qu'on croit comprendre à un moment, il lui explique que voilà, on lui ordonne de faire des choses, il le fait, quoi, voilà. Et en fait, Folco Lulli, c'est plus un habitué du cinéma d'auteur, et c'est par exemple lui, l'ouvrier qui se fait tuer dans Les Camarades. Et qui va déclencher un peu la révolte dans Les Camarades de Monicelli, ce film sublime de Monicelli. On le voit aussi dans La Grande Guerre, autre film sublime de Monicelli, où il a un rôle important, un très beau rôle. Enfin, c'est un très bel acteur, hein. C'est vraiment un acteur capable d'être très émouvant, tout ça. Et puis, il y a un second rôle que j'adore, qui fait ce major en fait, qui est un bidasse, qui n'a pas voulu arrêter la guerre, qui continue, c'est un personnage récurrent du western, hein, c'est des choses qu'on voit chez Peckinpah par exemple, qui est campé par Keenan Wynn. Keenan Wynn, c'est un super acteur, on l'a vu dans près de 300 rôles à la télé et au cinéma. Il avait un rôle dans Le Piranha de Joe Dante, mais récemment, et ça c'est assez rigolo, bah, il a joué Guano dans le colonel Bat Guano dans Docteur Folamour, quand même. Il a joué aussi donc chez Kubrick. Il a fait un shérif dont il était une fois dans l'Ouest. Et surtout, moi, ça m'a marqué quand je l'ai vu là, parce qu'on peut faire des relations entre les deux films. Un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, Le Flingueur de Michael Winner. Et dans Le Flingueur de Michael Winner, il fait celui qui engage Charles Bronson pour retrouver son fils. Donc c'est assez marrant. Puisque là, c'est lui qui a embrigadé le fils dans ce film de Bruno Corbucci. Ce film, j'ai envie de dire que je suis assez d'accord avec toi, il est plus classique que d'autres films. Il y a aussi beaucoup de westerns italiens, en fin de compte, assez classiques, hein, d'ailleurs, quand on déroule la filmographie du western italien, qui sont quand même beaucoup inspirés du western américain, quand même. Hein, Par contre, il y a deux petites choses qui font qu'on est quand même dans un western italien. Il y a une scène de Pietà à un moment, une scène de reprise de scène de la Pietà, bon là, que je vais pas dire dans quelles circonstances ça se passe, sinon je vais dévoiler trop de choses. Et puis, il y a un final multiple, double, voire triple, ça dépend comment on l'interprète, où à chaque fois, on croit que le film est terminé. Et non, il n'est pas terminé. Voilà. Et puis, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est à la fois un road movie et un buddy movie. Voilà. Il peut rappeler des films comme Midnight Run, par exemple, ce genre de choses qu'on verra bien, bien, bien plus tard dans le cinéma américain, où deux personnages antagonistes. Alors évidemment, il l'a repris à Léon, hein, voilà, il l'a repris au western de Léon, surtout ce périple dans le désert, là, où à un moment, ils décident les deux de passer par le désert. Mais c'est assez sympathique. Et puis, il y a la sublime Erica Blanc, hein, qu'on avait vu la même année dans Opération Peur, qui n'apparaît malheureusement que de manière trop courte dans le film, mais qui est quand même un moment assez sympathique dans le film.
Il y a quand même des images qui sont marquantes, notamment tu parlais de la séquence dans le désert. Là. Il y a ce personnage, là, le jeune, là, où on le voit carrément qui a la bouche pleine de sable. Alors je me dis quand même, l'acteur qui a la bouche pleine de sable, c'est quand même étonnant. Moi, ça m'étonne toujours. Je me dis quand même le faire, quoi, avoir la bouche pleine de sable comme ça. Et je note aussi, c'est que les héros, c'est vraiment des pureurs, la loi. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à flinguer des shérifs, etc. Et finalement, ce major qu'on nous présente comme une ordure, c'est un mec sympathique.
Il est sympa, ce major.
Il est sympa, bien sûr. Et ses acolytes aussi, qui disent « Oui, mais tu sais, moi, je dois payer les études de mes enfants, etc. » Il y a des choses comme ça dans le film qui sont très amusantes. Et surtout, bah, finalement...
Et très italien, c'est très italien, en fait.
Et les banquiers, les hommes de loi, c'est eux les salauds, quoi. Ce qui n'est pas le cas dans le film dont nous allons parler maintenant. I see a rainbow in the sky. I'm sure our chain will
C'è un posto per me in quel ranch?
Come no? Andiamo, Fidel.
Autre film sorti dans la même salve dans la collection western européen d'Artus Film, un film de 69 également, un film réalisé et scénarisé par Piero Pierotti, c'est la dernière balle à pile ou face. Alors, un film, Thomas, je crois que c'est un film qui t'a plutôt enchanté.
Je le trouve plus que sympathique même. Déjà, j'aime beaucoup le titre français, La dernière balle à pile ou face. Je trouve qu'il y a une certaine poésie, un certain fatalisme dans ce titre et qui décrit bien le film à mon sens. Hein. C'est un film que, effectivement, j'ai beaucoup aimé, qui semble plutôt avoir un budget beaucoup moindre que le tir Jean Gauthier. Mais qui, je pense, a, au niveau de la mise en scène, beaucoup plus de style. Alors l'histoire, c'est une jeune prostituée qui est un peu provocante, qui fait aussi beaucoup de clients, qui est accusée du meurtre d'un de ses clients. Et ce client, c'était le mari de la banquière de la ville. Et donc, elle est emmenée pour être jugée dans une grande ville. Mais sur le chemin, l'adjoint du shérif, un autre gars et puis un troisième larron, un obscur hors-la-loi, décide de la violer, ni plus ni moins, et de la laisser pour morte en plein milieu du désert. Mais seulement, ça ne va pas se passer comme ça. Il y a le chevalier blanc qui passait par là, mais qui lui a des coltes et non pas une épée, la récupère, la soigne, et il tombe amoureux, évidemment, et il décide de la venger. Et il retourne dans cette petite ville pour retrouver les trois hommes qui l'ont violé et savoir qui est le fameux de l'histoire de cette machination qu'il a fait accuser du meurtre de ce banquier.
Ce que tu n'as pas précisé aussi, c'est qu'il y a une ligue de vertu aussi dans la ville.
Oui.
Et ce sont des femmes qui décident à un moment d'aller lyncher toutes les prostituées. Et ils ont cette femme pour cible, en fait, depuis le début. C'est la sorcière, c'est la sorcière qu'il faut brûler, quoi.
Oui, alors, l'originalité de ce film aussi, c'est de montrer les prostituées comme des femmes. Hein, et ici, ce sont des victimes, ce sont des femmes à défendre aussi respectables que d'autres. Alors que les autres, là, qui se réfugient derrière leur ligue de vertu très pincée, en fait, elles sont beaucoup plus vicieuses et perverses que ça. Notamment la banquière, dans une séquence qui est quand même assez, assez étonnante hein, pour un western italien de cette époque. C'est un film de 69, hein, si je me souviens bien. Et c'est un film qui propose des séquences comme ça qui sont quand même très étonnantes, notamment quelques séquences d'amour à la fois très sensuelles mais aussi qui ne sont pas dénuées d'âpreté. Je pense à une scène particulière où le héros couche avec la banquière. Et j'aime beaucoup cette scène, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, de sensuel au niveau du son, c'est très âpre. Et puis lui, il tient son revolver, c'est très sexuel, hein. En même temps, ils couchent ensemble. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup la mise en scène de ce film-là, c'est plein d'idées. Et il y a aussi cette scène d'amour entre le personnage principal et la personnage principale qui se trouve dans un marais, ils se baignent dans un marais, puis ils font l'amour dans un marais. C'est très étrange, c'est un film très étrange, je trouve, très...
C'est un film à la limite du fantastique. Ce personnage qui la recueille habite dans une ville fantôme,
oui.
Où il n'y a qu'un couple d'Indiens qui est là, qui sont très... Lui est mutique, elle parle un peu. Effectivement, en plus, le film, pour moi... bénéficie aussi d'une beauté particulière, c'est cette beauté yougoslave qui interprète qui interprète l'héroïne, hein, la chanteuse Shanda, parce que c'est une chanteuse aussi, cette prostituée, et qui est interprétée par Spella Rosin. Et c'est vrai qu'elle a cette rousse, elle a un physique, comment dire, assez particulier, qui détonne un peu par rapport au physique plus pulpeuse des Italiennes, voilà, ou en tout cas de brune plus typée. Faut savoir que c'est une actrice quand même qui commençait le cinéma à 6 ans, hein, donc c'est pas une. Voilà, et on a pu la voir dans des westerns comme avec Django, la Morella de Margheriti. Et je pense que la scène dont tu voulais parler avec Daniela Surina, qui fait la banquière, c'est pareil, une sorte de brune ténébreuse comme ça, une beauté là aussi particulière, qui peut un peu évoquer Marie-Lou Tolo aussi comme actrice, voilà, une sorte de brune comme ça, très, 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 très typée. Et elle a une scène effectivement incroyable où, quand les femmes vertueuses de la ville décident d'aller lyncher les prostituées, alors déjà, il y a une rupture de ton, parce que c'est un peu filmé comme une bagarre dans un saloon à la Bud Spencer, Terence Hill, avec un côté humoristique, sauf qu'en fait, elles vont quand même s'en prendre à ces femmes qui leur ont pas fait grand-chose, en fin de compte. Hein, voilà. Et il y a une scène où ils poursuivent... Alors, mon idole, Edwige Fenech, qui je crois qu'elle est même pas mentionnée, d'ailleurs, ou si elle l'a peut-être mentionnée, si, elle est mentionnée au générique, la Mexicaine. Bon, dès que j'ai reconnu Edwige Fenech, bien sûr, j'étais aux anges. Je me suis dit, Edwige dans un film. C'est d'ailleurs le seul western dans lequel joue Edwige Fenech. Hein, voilà, c'est son seul western. La reine du giallo qu'on a vu chez Martino dans Toutes les couleurs du vice. Ton vice est une chambre close dont moi seul est la clé. L'étrange vice de Madame Ward. Ben voilà, vraiment une actrice que j'adore. En plus, une bonne actrice. C'était pas qu'un physique. Et là, bon, d'ailleurs, c'est la seule que l'on voit vraiment seins nus. Elle se fait fouetter. Et la banquière regarde ça. La banquière et la veuve, hein, voilà, regarde ça de sa fenêtre et ça la fait jouir. Et ça, c'est quand même une scène pas très typique dans un western en 69 de voir un truc pareil. Elle jouit de voir cette fille se faire fouetter. Elle est clairement sadomasochiste, hein. On le découvrira plus tard dans le film, et c'est vraiment une scène particulière. L'acteur principal, c'est John Erickson, qui est un bellâtre américain, qui était un ancien, parce que s'il y a des belles femmes, lui, plutôt bel homme, a fait la page centrale pas de Playboy, mais de Playgirl aux États-Unis, et il en avait marre. Il a joué dans toutes les séries western, Bonanza, Rawhide, et il a cru qu'il allait pouvoir faire une carrière à la Clint Eastwood, donc il est venu tenter sa chance en Italie, et il a fait entre autres ce film-là. Et il est assez bien, lui, il est assez charismatique, je trouve qu'il tient bien son rôle un peu mystérieux de Black Talisman, qui est son vrai nom. Et moi, il y a beaucoup de scènes, comme tu le disais, étranges dans ce film, beaucoup de ruptures de ton, et puis il y a de la mise en scène. Hein, et puis voilà, au début par exemple, il y a un duel. Il y a deux hommes qui se provoquent suite, et évidemment, ils sont chauffés, on va dire ça entre guillemets, c'est un peu trivial, par la chanteuse Shanda. Enfin, elle n'a rien fait, mais en tout cas, elle les excite beaucoup. Donc les deux hommes, ils sont un peu excités, ils décident d'aller en découdre et de se tirer dessus. Et sauf que la caméra reste dans le saloon.
Avec le pianiste qui joue une marche funèbre. Alors moi, je pensais qu'on allait entendre la marche funèbre en fond sonore avec les deux hommes qui se battent dehors. Mais non, on reste dans le saloon avec la marche funèbre en fond sonore du pianiste, joué par le pianiste.
Et puis les deux hommes re-rentrent dans le saloon, chacun à leur tour. En fait, ils sont morts tous les deux, ils sont blessés mortellement tous les deux. Et c'est assez drôle. Et puis c'est aussi, je veux dire, si des intellectuels s'y penchaient aujourd'hui, c'est aussi un véritable objet d'étude sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui la culture du viol, quand même, hein, ce film. C'est-à-dire que le viol revient très souvent dans le film, et cette femme, Shanda, qui est une femme, donc pour la plupart des gens, de petite vertu, tout le monde est prêt à la lyncher, tout le monde veut la violer, parce qu'après tout, c'est normal, on doit la prendre de force, c'est tout ce qu'elle mérite. C'est très étonnant, parce que les deux personnages qui la violent, c'est quand même les deux adjoints du shérif, ceux qui décident de la violer. Alors que le shérif, comme tu le soulignais, lui, c'est un type bien, c'est un type droit. Le shérif, c'est un type tout à fait correct, mais alors il n'est pas entouré d'autres types assez corrects. Alors, Le film n'est pas sans défaut. À un moment, on voit un membre de l'équipe technique qui se reflète dans un miroir. À un moment, enfin, des petites choses comme ça. Mais c'est un film, voilà, qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui a un vrai metteur en scène. Alors, il paraîtrait que ce film quand même très très dur, hein, qui montre un visage très dur en fin de compte de l'Ouest, hein, qui montre un visage assez très noir. Serait l'avant-dernier film d'un réalisateur malade. Il paraît que Piero Pirotti était très malade quand il fait ce film. Et du coup, il ne faut peut-être pas s'étonner qu'il règne sur ce film quand même une atmosphère un peu méphitique.
Arizona. Someday I'll find the way, and I'll leave you behind. Follow my dream, but now you're calling me. Over canyons where rivers flow, where the mountains are white with snow. Someone is waiting there with a cry for revenge. Days with no end. Oh, Arizona mine. In the night, someone's waiting. I can see the whites of their eyes. Sight of shame, where the body lies.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Arizona is waiting there, over mountains beneath the sun. Someday I find the way, and I leave you behind. Follow my dream, but now you're calling me.
Toujours chez Artus Film, Damien, toi tu es venu avec sous le bras un autre film. Alors, tu n'es pas venu avec ta mitraillette, non. Tu es juste pas venu avec ta mitraillette pour réclamer l'indépendance du Congo, mais tu es venu avec le film Les Sept Bérets Rouges de Mario Siciliano. Là aussi, un film de 1969. Un film, entre autres, avec le magnifique Ivan Rassimov, lui aussi égérie du giallo. Voilà. Mais je n'en dirai pas plus et je vais te laisser nous parler de ce film qui se déroule donc au Congo, dans la région de Simba, où des soldats sont massacrés par les rebelles, qui leur dérobent des documents précieux. Et le seul survivant, donc le capitaine de bande, rejoint le quartier général. Son colonel décide alors de former une troupe de 7 mercenaires, avec pour mission de récupérer ces fameux documents. Et ces 7 mercenaires, ce sont évidemment les 7 bérets rouges.
Ma première confrontation avec un bis italien, peut-être, en tout cas c'est ma première confrontation avec un film de Mario Siciliano. L'introduction est assez dure parce que justement le film s'ouvre justement sur les mercenaires qui attaquent pour prendre les documents. C'est pas l'objectif finalement, ils attaquent juste leur ennemi et vont se retrouver avec les documents dessus. Et en fait, ça s'ouvre sur cette scène de massacre, une scène de torture, un sous-entendu de viol, ce qui veut dire que dès le départ, le film met les pieds dedans. C'est un film qui, à travers ses mercenaires de plein de nationalités, met aussi en avant des relations entre différentes populations extrêmement racistes et misogynes pour les soldats blancs qui sont un peu comme ce que faisaient les colonisateurs une fois qu'ils ont débarqué. C'est un film que je trouve qui a en lui énormément de cruauté et dont le film s'en dégage avec aussi une maltraitance animale très présente. Il y a aussi des scènes de combat vu qu'il y a beaucoup d'affrontements qui je les trouve un peu raté, même si je vois que le réalisateur essaie de mettre quelque chose en place. Par contre, il y a l'atmosphère du film que je trouve absolument magnifique, notamment à travers des plans qui sont très beaux, et une chaleur présente à travers tout le film qu'on ressent bien, qui nous étouffe avec les soldats qui sont présents. Il y a un truc qui est intéressant dans le film, c'est finalement au cours de son déroulement, il y a une sorte d'effet de boucle qui se fait entre le début et la fin, et la façon dont il instaure, donc je disais, les plans et sa chaleur, ça fait une sorte de progression dans la folie des soldats qui se retrouvent finalement dans leur mission qui continue avec de plus en plus de galères au fur et à mesure. C'est vraiment un film qui m'a surpris, en fait. Je m'attendais pas à me retrouver face à ça, je m'attendais à quelque chose de moins lourd à regarder, mais pas lourd dans le sens négatif, lourd dans le sens que c'est un film qui a du poids sur moi, qui réussit à m'impacter, et ça m'a vraiment surpris. Donc moi je dis qu'il faut redonner une chance à ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Bienvenue dans l'univers du biche italien. Cruauté envers les animaux, femme que l'on déshabille, femme que l'on prend de force, mâle viril, travaillé par des traumas pour certains. Je parle là de l'excellent personnage incarné par Ivan Rassimov, qui fait un Français un peu mercenaire qui va les accompagner parce qu'il est le seul à connaître le chemin pour aller dans la jungle. On est dans la série B d'exploitation typique, comme les Italiens en produisaient des tonnes, hein, c'est-à-dire que s'il y a eu les 12 salopards, on va faire les 7 bérets rouges, quoi. Voilà, il y a eu les bérets verts, il y a eu les 12 salopards, donc nous on va faire les 7 bérets rouges. Ça fait un peu mélange des deux, voilà. C'est tourné en Érythrée, c'est pas un petit film non plus. On est dans le cinéma bis, dans la série B. Mais c'est correct en termes de budget. Il y a quand même des acteurs qui tiennent la route. Il y a Kirk Morris, enfin, il y en a d'autres. Je vais pas faire tout le déroulé des acteurs. Il y a Pamela Tudor aussi et Angelica Houde dans les rôles féminins. Angelica Houde qui fait une journaliste française. Pamela Tudor qui est une actrice intéressante d'ailleurs, hein, qui fait cette Toubib en fait, hein, ce bidas Toubib. Et c'est pas vraiment un inconnu, Mario Siciliano. Mario Siciliano, il a surtout produit, on ne sait pas trop s'il a réalisé, deux westerns, Gringo joue sur le rouge, et surtout Les Coltes de la violence, qui est un western que j'aime bien, moi, qui est bis, hein, qui est fauché, mais qui est un western que j'aime bien, que je trouve efficace. Depuis que je l'ai vu gamin en VHS, j'ai pas changé d'avis, je l'ai revu depuis, voilà, il est chez Artus aussi, et c'est vraiment un western que j'aime bien. Alors, après... c'est un film, ça rigole pas beaucoup quand même, c'est assez brutal, c'est assez... Et effectivement, comme tu le dis, il y a des moments très étonnants. Alors effectivement, il tue un serpent, hein. Je pense que c'est ça dont tu parlais quand tu parlais de la violence animale, c'est sûr qu'il tue le serpent. Il y a des moments où ils nous font croire qu'ils vont martyriser les animaux, mais ils le font pas. Par contre, le serpent, il le tue, ça c'est sûr et certain. C'est pas des effets spéciaux, de toute façon, vous avez pas de maquilleur, hein, donc voilà. Mais... c'est un film assez âpre et tout, il n'y a pas beaucoup de psychologie, tout ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film, il évite l'écueil de pas mal de films italiens de l'époque, il évite l'écueil d'être réactionnaire, en fait, il n'est pas trop manichéen, hein, voilà, pour du cinéma bis, parce qu'on a des personnages qui représentent un peu tous les points de vue, tous les angles. On va avoir ce personnage noir là qui est interprété par un culturiste français qui lui va dire il faut se battre pour l'indépendance du Congo. On va avoir le personnage de Nazillon qui jette des grenades sur des hommes noirs sans défense qui sont tombés dans des trous. Voilà, on a un peu toute la palette de l'humanité. Alors c'est pas subtil évidemment, mais ça donne un film, ma foi Thomas, assez rythmé. Mais assez sympathique, enfin, passer les réserves de violence animale, évidemment, et tout ça. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment la série B italienne, c'est un film intéressant.
Ah oui, je trouve que c'est un bon film de guerre, bien rythmé. Et effectivement, les personnages, c'est presque tous des salopards. Et c'est presque tous des salopards, mais on a quand même de l'empathie pour eux, quelque part. Il ne déteste pas ces personnages, le réalisateur. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que Bon, c'est censé se passer au Congo, en RDC, dans les années 60, donc après l'indépendance, là où Mobutu a pris le pouvoir, et puis c'est parti sérieusement en couille, si j'ose dire. Et il parle des Simba. Les Simba, c'était des... Je trouve que c'est intéressant à signaler, parce que les Simba, c'est des guerriers assez particuliers, en fait. Hein. C'est des guerriers qui obéissaient, qui se battaient contre Mobutu. Ils étaient sous l'ordre de Pierre Mulele, qui était un des opposants principaux, un des principaux opposants à Mobutu, et de Laurent Désiré Kabila. Et les Simba, en fait, ils obéissaient à des rites magiques. Donc ils ne devaient pas se couper les ongles, les cheveux, ni se raser, etc. Ils n'avaient quasiment pas d'armes à feu. Ils se battaient avec des gourdins et des armes blanches. Et donc, t'imagines un peu le machin. Et donc, ils étaient persuadés qu'ils étaient protégés et qu'ils ne pouvaient pas être tués par les balles ennemies. Donc, mais bon, les Simba dans le film ne sont pas représentés comme ça, quoi.
Le même réalisateur, 10 ans plus tard, en 78, s'ennuie un peu, Mario Siciliano. Il s'est dit, je vais faire un autre film. Hein. Scorticatelli Vivi, écorché vif, en version française. Il a certainement revu son film à ce moment-là. Bon, je crois qu'il était déjà plongé dans la pornographie à ce moment-là, parce que il a tout fait. Hein. Après, quand c'était le porno, il a fait du porno. Enfin, bon, il est passé à travers toutes les modes. Hein, voilà, et il est allé à fond hein, dans le graveleux, dans tout ce que vous voulez. Bon, et en 78, donc il se dit, tiens, si je faisais encore un petit film de mercenaire en reprenant la moitié de mon film d'avant. En retournant des contre-champs avec d'autres acteurs et tout, enfin bon voilà, en racontant une autre histoire, mais en fait en reprenant les mêmes images. Et donc il nous fait, alors ça qui est rigolo dans ce qu'a sorti Artus Film, c'est de sortir les deux films, ça c'est plutôt marrant. Et c'est l'histoire de Rudy, donc un voyou italien qui part en Afrique retrouve son demi-frère qui est un type sympathique, hein, il fait tout le temps la gueule, il tape sur tout le monde, il veut prendre toutes les femmes de force, enfin moi, parce que là par contre c'est moins ambigu et puis beaucoup moins moins évolué, beaucoup plus manichéen que le film précédent, il voudrait bien aller retrouver son demi-frère parce que son demi-frère, il a accès à des diamants et puis lui, il a des dettes quoi, en Italie. Donc, il se dit, s'il peut récupérer tout ça, ce serait pas mal. Et il arrive pendant une révolution durant laquelle son frère est à la tête, en gros, d'un commando qui aime pas trop les Noirs. Quoi. Voilà. Donc, c'est... Comment trop parler de ce film ? Bon, déjà, c'est que bah, tout ce qu'on a dit de bien sur le réalisateur avant, il faut l'oublier. Voilà. C'est pas bon, quoi. Hein. Voilà, il y a eu Les Oies Sauvages de McLaglen qui ont fait un gros succès. Donc, il s'est dit, bon, moi, je vais me faire une petite arnaque. Je vais tourner un film, parce qu'en fait, le film a été tourné pour pas un rond, hein, mais vraiment pas un rond. Hein. Je crois que c'est l'un des budgets les plus petits de l'histoire du cinéma italien. Il se permet, mais tout et n'importe quoi. Enfin, les contre-champs sont par accord et tout ça. Enfin, il y a un moment, il reprend la scène avec un autre acteur. Tu vois bien que derrière lui, c'est de la forêt italienne. Avec un autre acteur qui. Il reprend la scène du personnage noir qui se prend une grenade qui est dans le trou. Sauf qu'en contre-champ, là, c'est un autre acteur dans la forêt italienne. Quoi. Enfin, bon, voilà. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Par moment, ils sont carrément devant un mur blanc. Pour histoire de dire, bon, au moins, c'est blanc. Voilà. Bon, puis on retrouve pas les, on n'a pas les mêmes acteurs que dans le précédent, quoi. C'est un peu une grosse arnaque quand même. Ils se foutent un peu de notre tronche là, le père Mario Siciliano là.
Oui, et même au niveau de l'histoire, autant les salopards des sept bérets rouges, on a de l'empathie pour eux, on suit l'histoire avec intérêt. Autant là, on en a rien à foutre parce que les personnages sont tous détestables, quoi. On les aime pas. Même le personnage principal là, dans sa petite amie, est une prostituée de luxe apparemment plutôt. Hein. On les aime pas. On dit mais putain, mais pourvu qu'ils crèvent, quoi. Pourvu qu'ils crèvent tous. Mais non, ils crèvent même pas tous, quoi. Mais non, mais vraiment, et effectivement, les scènes d'action reprises du film précédent, des sept bérets rouges, ça ne raccorde pas du tout. C'est pas la même lumière, c'est pas étalonné, c'est pas la même texture. Les directions de regard, ça marche pas. Parfois, t'as la même scène. Il utilise deux plans différents de la même scène pour deux scènes différentes. Je veux dire, ça se voit, quoi.
Je vais terminer par un film bien meilleur. Tutti a casa, tous à la maison. Hein, voilà, La Grande Pagaille, qui est un autre film de guerre. Enfin, une comédie qui se passe en temps de guerre, ou plutôt en temps d'armistice. Scénario Adje Scarpelli, qui sont des grands scénaristes. Deux acteurs principaux extraordinaires. Alberto Sordi, Serge Reggiani. Alors Serge Reggiani, le français qu'on ne vous présente plus. Alberto Sordi, l'immense acteur italien. Et c'est un film réalisé par Luigi Comencini, réalisateur de L'Incompris, réalisateur de L'Argent de la Vieille. C'est un film de 1960. Et c'est un film assez incroyable, en fait. L'histoire est assez basique. Hein. L'Italie vient de signer l'armistice avec les Alliés. Le lieutenant Innocenzi, donc Alberto Sordi, et son détachement trouvent leur caserne abandonnée et constatent qu'ils sont devenus les ennemis de leurs alliés de la veille, c'est-à-dire les Allemands. Abandonné par ces hommes, Sordi, donc Innocenzi, n'est plus accompagné que de Ceccarelli, interprété par Serge Reggiani, et ils vont devoir se déguiser en civil pour essayer de traverser l'Italie sans perdre la vie. Et donc, ça va donner un très beau, déjà, plastiquement très beau, très belle mise en scène. Bon, c'est fastueux, hein, c'est pas, on n'est pas dans le bis, là. Hein, on est chez Comencini, voilà, on n'est pas dans le bis. C'est un très beau, très, très beau film. Sordi, il est fabuleux parce qu'il est à la fois couard, il peut être couard, un peu lâche et plein de noblesse. Il y a un final poignant, sublime, où il dit une phrase devant une certaine situation. On ne peut pas toujours ne rien faire. Voilà. Et d'ailleurs, il devient résistant, en fait, à la fin du film, dans une très belle scène, vraiment. Ce film, c'est du grand cinéma comme seuls les Italiens savaient en produire, c'est-à-dire ce miracle de la comédie italienne à la fois dramatique, à la fois drôle, voilà. Il y a des scènes très cocasses, par exemple, au début, il y a un Allemand qui poursuit le régiment mené par Sordi, puis qui lui dit « Mais j'en ai marre de la guerre, je veux me constituer prisonnier. » Et Sordi lui jette des pierres. Il dit « Non, 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 mais on veut pas de toi, on veut pas de toi, on veut pas de toi comme prisonnier. » Voilà. Et il y a aussi un autre moment où Sordi fait une escapade avec une belle brune. C'est aussi un grand moment. Alors le film est produit par Dino De Laurentiis, peu après un chef-d'œuvre de Monicelli, La Grande Guerre. Hein, et ce film-là, il constitue un prolongement. S'il ne parle pas de la même guerre, il constitue vraiment un prolongement de la précédente production de Dino De Laurentiis, La Grande Guerre de Monicelli. Et en fin de compte, ça donne un superbe film. Je l'ai dit, hein, les Italiens, il n'y a qu'eux qui savent faire ça. Qui savaient le faire, en tout cas. Cette comédie qui est un mélange de drame, d'ironie, on donne un regard comme ça, plein d'humanité, sur deux pauvres bougres qui sont confrontés au tragique d'une situation qui, comme le titre français l'indique, est une grande pagaille. Voilà, donc un grand film qui est sorti chez Rimini et que je vous conseille vivement, même plus que je vous le conseille vivement, vous devez obligatoirement l'acheter et le visionner. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud, Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis du Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je vais bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.